Vas-y, donne-moi-le.
Alors là, donne-moi langue au chat.
Vas-y, donne-moi-le.
T'as vu, il se la donne grave.
Vas-y, donne-moi ça.
Ah, je suis pas une donneuse.
Mais allez, donne-le-moi.
Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler.
S'il vous plaît, donnez-le-moi.
Donnez-le-là.
Donne-moi la main et prenez.
Il y a des milliers de façons de donner, et sans doute autant de recevoir. Et vous d'ailleurs, vous donnez? Et quoi? À qui? Et pourquoi? Vous le savez? Nous, pendant une semaine, on a réfléchi sur ce thème. On vous propose d'écouter ce que ça donne.
J'ai 17 ans, et si je pense à ce que j'ai donné jusqu'à présent, je pense pas aux objets. C'est surtout les sentiments qui viennent, bons ou mauvais. Quand j'avais 13-14 ans, les problèmes ont commencé. J'allais pas bien, ni à l'école, ni à la maison. Je partais au quart de tour et je m'en allais de chez moi des heures entières, sans rien dire. Pendant que j'étais dehors, ma mère s'inquiétait sans savoir où j'étais, ni ce que je faisais. Quand je partais, je réfléchissais pas. Et c'est qu'après que je me rendais compte que je la rendais triste. Il y a même des fois où je l'ai vu pleurer à cause de mes conneries. À cette époque, la seule chose que j'étais capable de lui donner, c'était du souci. Malgré tout ça, c'est la seule qui croyait à moi pour avancer dans la vie. Et tandis que d'autres me lâchaient ou me laissaient dériver, ma mère, elle a tenu. Elle a toujours cru que j'étais capable de faire quelque chose. Elle a jamais arrêté de me donner de l'espoir. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et grâce à elle, j'ai changé. J'ai pris conscience que je pouvais prendre en main mon avenir. Maintenant, je fais de plus en plus d'efforts. Je suis sûr qu'elle est fière de moi et qu'elle continuera à m'aider.
Bonjour. On avait rendez-vous avec une personne pour la cellule de coordination du prélèvement d'organes.
Oui. Je vais les appeler alors. Ou alors vous montez au quatrième carrément. Montez l'escalier tout droit et au quatrième étage. Hein? Voilà.
Merci. Allez, flippe pas. Bonjour, on vient pour une émission de radio.
Bien sûr.
Entrez, on vous attend.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je me présente. Bonjour. Je m'appelle Daniel Martin. Je suis accompagné de Marvin, Guillaume, Alexandre et... On fait partie de l'atelier donc informatique et radio. Donc on réalise une émission de radio sur le thème de données. Donc voilà, on aimerait vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors je suis Madame Carbonel, je suis cadre de santé et je travaille à la coordination des dons d'organes au CHU à Montpellier.
Et qui peut donner donc, ces organes?
Au niveau des organes, toute personne dans un établissement autorisé à prélever qui est dite en mort cérébrale. Et ensuite, après tout décès dans un établissement autorisé à prélever, on peut offrir pour des patients en attente de greffe de tissus ces tissus dont ils ont besoin. Ça peut être la cornée, ça peut être la peau pour les grands brûlés. Enfin voilà, c'est assez large.
Excusez-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui refuseraient de donner alors qu'ils sont compatibles avec d'autres?
Alors, les refus que l'on a, ce sont les refus exprimés par une famille, puisqu'une personne qui est en position de donner, chez nous, ne peut plus s'exprimer, puisqu'elle est décédée. Au niveau des familles aujourd'hui, alors soit ils nous rapportent que la personne de son vivant s'était opposée, soit certaines familles nous disent « nous, on ne peut pas ». Il y a des circonstances de décès qui font que c'est très dur. Moi, la première, je ne sais même pas comment je réagirais dans ces cas-là.
Et vous, personnellement, est-ce que vous donneriez un organe?
Alors moi, quand on en parle autour de cette table, je vais vous répondre oui. Maintenant, est-ce que mes proches pourront porter, s'ils se retrouvent confrontés à cette décision-là, qu'est-ce qu'eux pourront dire de ma volonté? Parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de fichier de donneur.
Peut-on donner nominativement à quelqu'un qu'on connaît?
Alors, on peut donner à quelqu'un qu'on connaît uniquement dans le cadre du don du vivant. On peut donner que dans le cercle des proches. Ce don du vivant, ça ne concerne qu'un rein ou une partie du foie. Sinon, après décès, on ne peut pas donner à une personne en particulier.
Peut-on donner seulement à la famille ou on peut, de notre vivant, donner à un ami ou...
En France, on ne peut pas donner à un ami. il faut justifier de plus de 2 ans de vie commune avec la personne à qui on veut donner. Donc c'est, aujourd'hui, on a étendu famille à proche parce que, ben, on tient compte des familles recomposées. Hein. On peut être très proche d'un beau-père, d'une belle-mère.
Est-ce que la personne qui reçoit un organe peut connaître l'identité du donneur ou avoir un contact au moins avec sa famille ?
Dans le cadre du vivant, forcément, donneur et receveur se connaissent. Après décès, l'anonymat, c'est un des principes de la loi. La famille du donneur connaîtra jamais les receveurs. Les receveurs connaîtront jamais la famille du donneur. Et nous, au niveau des équipes, nous, on est équipe qui prenons en charge le donneur, on ne connaît pas l'identité des receveurs. Et l'équipe de greffe ne connaît pas l'identité du donneur. L'anonymat est vraiment garanti à tout niveau.
Pourquoi ?
Pourquoi l'anonymat ? Ben pour tout simplement qu'il n'y ait aucune pression de part et d'autre. C'est vraiment un don à l'autre. Or, quand on voit certains agissements au niveau humain, on aurait peur que ce don soit entaché. Parce que finalement, dans notre société, on critique beaucoup l'autre, on sait beaucoup le critiquer, on ne sait pas forcément donner. Aux États-Unis, ils avaient levé l'anonymat à un moment donné, et c'était « Comment mon fils est intelligent, vous avez greffé un illettré ?» Voilà, quand on donne, c'est pour l'autre, pour celui qui a besoin.
Il pourrait y avoir un besoin de remercier de la part du receveur. Est-ce qu'il pourrait passer par vous pour remercier ou...
On a de belles lettres anonymisées qui arrivent, mais qu'on ne peut pas transmettre aux familles. Alors parfois, quand on a des manifestations en public, c'est l'occasion d'échanger ces lettres-là, ces moments-là. Voilà, au moins qu'il y ait ce merci public, parce qu'on dit beaucoup, on a besoin d'organes, il y a des gens qui meurent faute d'organes, mais pour l'instant, ça fait quand même plus de 25 ans qu'on greffe, on n'a jamais dit merci, parce que cette greffe, elle est possible au niveau médical, au niveau technique, mais elle est surtout possible grâce à l'humain et notre part d'humanité.
Donc voilà, ben merci.
Merci aussi.
Allez.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Merci à vous.
Chaque année, moi, j'ai un oncle qui offre le même cadeau à tout le monde. Dans ma famille, on est 13. Ben, il va offrir 13 boîtes de chocolat ou 13 livres. Et peu importe l'âge qu'on a ou ce qu'on aime. Pour lui, c'est tout le monde pareil. Mais alors la question c'est, pourquoi on offre ? Certains donnent par plaisir d'offrir. D'autres personnes, elles, donnent des cadeaux pour se donner bonne conscience. Toute l'année, elles sont centrées sur elles-mêmes. Mais en certaines occasions, elles offrent des cadeaux. Pas pour faire plaisir, mais par orgueil. Et puis, il y a des fêtes comme Noël, où la tradition fait que l'on se sent obligé d'offrir des cadeaux aux autres. Alors on donne des cadeaux vite fait, sans prendre le temps de réfléchir. Mais pour moi, les cadeaux... Ça doit être spontané, pas prémédité, sans occasion particulière. Moi, j'offre par plaisir ou pour faire plaisir. Ça dépend des situations. Pour certains, c'est donnant-donnant. Mais moi, je pense qu'il faut être capable de donner sans être sûr d'attendre quelque chose en retour. Sinon, tu peux passer ta vie à attendre quelque chose que tu n'auras peut-être jamais.
Vous êtes vieux, vous êtes riche. Vous avez donné pour le Téléthon, le Marathon. Eh bien maintenant, vous pouvez donner pour le Damienthon. Chaque don envoyé me permettra de démarrer ma petite entreprise d'escroquerie par téléphone. Nous acceptons uniquement le liquide ou un SMS comprenant les 16 chiffres de votre carte bleue et son code. Chaque don sera irréductible des impôts.
Alors, n'hésitez pas, appelez immédiatement le 06 73 80 32 34 et tous les profits seront reversés directement dans ses poches.
Chaque appel sera facturé 8 euros la minute plus coût de l'opérateur après le signal sonore.
Moi je pense que quand on n'a pas d'idée de cadeau, on pense direct à donner de l'argent. C'est une bonne intention, ça montre que l'on pense à la personne. Mais il manque le côté personnel, le mal qu'on se donne à trouver la chose qui fera plaisir. Moi je dis que même un cadeau pas adapté à nous, c'est pas si mal. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et il n'y a pas que le cadeau en lui-même. La façon de l'offrir est importante elle aussi. Si quand t'offres un cadeau, tu fais pas attention à l'ambiance, tout peut être gâché. Et moi, j'ai beau savoir ça, je suis pas toujours au top côté ambiance cadeau. On peut aussi offrir des choses sans réelle raison, juste comme ça. Et même si c'est qu'un dessin, ça peut faire super plaisir. Au pire, il peut être oublié dans un tiroir, mais... On pourra toujours le retrouver ou tomber dessus par hasard. Ou alors se souvenir des moments passés avec la personne qui nous l'avait offerte. Moi, je dessine souvent des personnages sur les bouts de papier. Et parfois, il y a des gens qui me demandent de leur donner. Et quand je le fais, ils me disent même merci. Même si je les trouve pas forcément géniaux, ces trucs. Je les donne. Et ils prennent ça comme des cadeaux. Il y en a même qui les ont affichés. En fait, c'est celui qui reçoit le cadeau qui lui donne une valeur. Alors que c'est moi qui l'ai fait. Moi, il y a un truc que je garde dans un tiroir. C'est des lettres de potes. Ils les ont écrites pour moi quand j'étais dans la galère. Depuis, on s'est fâchés. On se voit plus. Mais ces lettres, même si c'est que des mots, ça reste un cadeau précieux.
On vient pour interviewer...
Jean-Pierre Belair.
Jean-Pierre Belair.
Alors suivez-moi, il est au fond.
Donner, ça nous a fait penser à l'aide aux plus démunis. Pour en savoir plus sur cette question, nous sommes allés interroger Jean-Pierre Belair dans les locaux du Secours Populaire.
Bonjour.
Dans cette association, Jean-Pierre et les autres bénévoles, on voit bien qu'ils ne font pas que donner de leur temps. Ils redistribuent de la nourriture et des vêtements, mais surtout, ils réfléchissent sur la façon dont ils les donnent.
Bon alors bonjour, déjà on voudrait savoir concrètement comment le Secours Populaire parvient à aider les gens qui viennent ici.
Les gens qui viennent, en général, ils viennent parce qu'ils sont dans un état de détresse très forte. Hein. Il faut dire plus que détresse, il faut dire souffrance. Hein. Bon, alors, les gens quand ils viennent, ils ont besoin. Le frigo est vide, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus d'habits, tout ça. J'allais dire, il faut répondre à cette attente. Hein. Tu ne vas pas leur dire, écoutez, il y a des tas de choses intéressantes. Non, ils disent, moi, je voudrais bouffer. Hein. Bon, donc on commence par ça. Aide alimentaire. Aide vestimentaire aussi. Alors, on collecte des habits, on les trie, on les répare, on les donne ou on les vend pour des euros symboliques. Et on donne à recycler ce qui n'est pas métable. Voilà. Troisième chose, et c'est important parce que c'est ça notre vrai boulot, bah faire en sorte que les gens ils se sortent de cette assistance, de cet assistanat. On ne veut pas simplement aider les gens à bouffer. Tu vois, quand j'ai vu le thème là, de notre entretien, quand j'ai vu donner, je me suis dit qu'il fallait faire un petit correctif parce que eh bien, si on ne fait que donner, c'est terrible si tu veux. Il y a les gens qui reçoivent et les gens qui donnent. Et ça veut dire qu'on se retrouve chacun d'un côté de la barrière. Alors, je ne sais plus quel est le boxeur qui disait qu'il n'y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai, mais bon, il ne faut pas rester dans le don. Hein.
Et le Secours Populaire, justement, existe depuis très longtemps, mais la pauvreté, la misère, ça baisse pas, au contraire même. Est-ce que vous pensez que votre action, on va dire, sert vraiment les gens ou... Est-ce que vous battez un peu contre quelque chose que vous ne pourrez pas vaincre, finalement ?
Ben, c'est une excellente question. ouais. Bon, écoute, je crois que c'est vrai, la misère a toujours existé. Mais je veux dire, en France, elle n'a pas le droit d'exister. Va te balader aujourd'hui au polygone, on n'est pas un pays pauvre. Mais il y a de plus en plus de pauvres. Alors, la question, c'est comment on s'en sort ? Première réponse, on aide les gens, mais avec le risque de gérer la pauvreté. La deuxième solution, mais tout le monde la sait, ça relève de la politique. Voilà. Alors, c'est un peu frustrant, hein, je le dis, c'est frustrant. Parce que t'as raison, hein. On a l'impression d'essayer de remplir une baignoire qui fuit. Hein. On est d'accord. Hein. Et d'avoir de moins en moins d'eau, en plus. Hein. Bon. Mais bon, faut faire son choix. Enfin, faut faire son choix ou faut faire les deux. Personnellement, je fais les deux. Mais quand je suis au Secours Populaire, je ne fais pas de politique.
Et à part ça, le Secours Populaire, il y a beaucoup de bénévoles.
Si tu veux, je vais parler de Montpellier. Ça te donnera une idée. Tu connais la ville, à peu près la taille. Bon. Alors, à Montpellier, il y a environ 80 bénévoles hein, qui sont répartis en 6 points d'accueil sur Montpellier. Bon, c'en est un ici, et puis il y en a d'autres un petit peu, en général, dans les zones un petit peu difficiles, en difficulté. Hein. Voilà, alors 80 bénévoles, je ne sais pas qu'est-ce qui t'intéresserait. Je peux te dire des chiffres, hein, c'est un petit peu...
Des chiffres, mais ce serait plutôt de savoir qu'est-ce qui fait que les gens veulent donner de leur temps comme ça pour... bénévolement.
Ça, c'est un grand mystère. Bon, il y a le fait qu'il y a des gens qui arrivent à la retraite. Moi, ça a été un peu mon cas. Les gens de mon âge qui prenaient la retraite, je les entendais qui disaient « on va faire la Thaïlande, on va faire l'Australie, on va faire ça, on va faire ça ». Moi, ça me cassait les pieds, ce genre de conversation. Je trouvais même presque ça indécent d'aller faire du tourisme dans des pays pauvres. Enfin bon, moi, je me suis dit, faut pas rester à côté de tout ça. La deuxième chose, c'est de dire, il y a tellement d'inégalités que franchement, si on fait rien, on est complice. Je crois qu'au départ, il y a le sentiment que notre société est injuste et que... et qu'on ne peut pas rester passif devant ça.
Je suis né avec une double culture, un père marocain, une mère française née au Maroc. C'est ma mère qui s'est chargée de m'élever. Le Maroc, je l'ai vu sous tous ses aspects. Et ça permet d'avoir un regard différent sur l'aide qu'on peut apporter au pays soi-disant sous-développé. Au Maroc, j'ai commencé par être un touriste comme tous les Français, t'es étranger. Et tous ceux de là-bas, ils te demandent des trucs. Dans les villages, on voit la misère, alors on donne. Quand on est touriste, on donne surtout parce qu'on a l'impression d'aider. Et aussi pour se donner une bonne conscience. On prend un guide, on balade dans le désert, on va voir des nomades dans leur tente, on boit du thé, on va faire des repas traditionnels. Mais ça, la plupart du temps, c'est du théâtre. Par exemple, vos nomades, d'habitude, ils habitent en ville. Vous voulez voir du traditionnel, alors on vous en donne, c'est normal. J'ai eu la chance d'être accueilli dans certaines familles de vrais nomades. Ceux-là ne sont pas à la portée des touristes. J'ai bien vu la différence. Faut comprendre, il y a des villages entiers qui vivent du tourisme. Alors les touristes, on leur donne ce qu'ils veulent voir. Mais ça a des conséquences. J'ai que 16 ans, mais je peux vous dire que j'ai pu observer comme ça change les choses et les relations entre les gens. C'est sûr que ça permet sûrement aux gens de vivre mieux. On peut mettre l'électricité, l'eau, tout ça. Ça aide à désenclaver les villages reculés. Mais l'ambiance des villages, elle change. Les gens, ils s'occidentalisent. Et pas dans le bon sens. C'est plus le même contact. Ça devient chacun sa vie. C'est déjà comme ça dans les grandes villes. Mais là, c'est vraiment dommage. En plus, certains ont vraiment l'habitude qu'on leur donne. Par exemple, suffit qu'un groupe de touristes arrive. Et c'est un nuage de mioches qui va demander des bonbons, des stylos. Et ça, c'est pas bon. C'est même dangereux pour eux. Cette ambiance, elle permet pas de construire soi-même sa vie. Il y en a même qui restent les bras tendus à attendre que ça se passe. Ils pensent plus que ça peut venir d'eux-mêmes.
À l'heure d'aujourd'hui, je ne vois plus ma mère. J'ai 16 ans, je vis employé depuis que j'ai 2 ans, et je ne veux plus la voir. Avant, c'était elle qui avait fait ce choix. Une des raisons qui m'a poussé à l'abandonner, c'est que je n'ai jamais eu de cadeau. Ni pour Noël, ni pour mon anniversaire. Alors que mes petits frères sont ultra gâtés. Vous pouvez croire que j'étais jaloux, mais moi, je pense plutôt que j'étais victime d'une injustice. À l'époque, je me demandais pourquoi ma mère faisait la différence entre ses grands-enfants et ses petits. J'ai interrogé mes frères, mes potes et ma mère. En fait, entre mes petits frères et moi, il n'y a pas qu'une question d'âge. Il y a surtout deux pères différents. Et donc, deux histoires pour ma mère. Une qui existe encore, et une, celle avec mon père, qui a mal tourné. C'est une des raisons pour lesquelles elle ne me donne pas d'amour, et donc, pas de cadeau. Quand on vit hors du cocon familial, on se fabrique son propre cocon. Sa propre famille, entre guillemets. On se rabat sur les gens chez qui on est placé, sur les copains. On se fabrique des sœurs et des frères de cœur. On essaye de grandir normalement. Mais je pense qu'on peut pas vraiment, car la famille, c'est sacré. Alors, quand on m'offre un petit quelque chose, j'y porte plus d'attention qu'un autre. Même si c'est un petit objet. Par exemple, ce que je sauverais si ma chambre brûlait, ce serait le porte-clés que mon frère m'a offert pour mes 11 ans. Il y a les mots « amour » et « famille » gravés dans du bois. Si ce porte-clés a autant de valeur, c'est parce que ces mots représentent ce que je n'ai jamais eu. Quand on parle, comme je viens de le faire, de famille et de cadeaux, forcément, on pense à Noël. Et pour moi, cette fête, c'était pas toujours facile. Il m'est même arrivé de mentir quand les copains, après les fêtes de Noël, déballaient tout ce qu'ils avaient. Toi, tu peux pas dire que t'as rien reçu. T'es obligé d'inventer une histoire comme quoi t'aurais eu plein de cadeaux. Pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir, c'est une vraie famille, soudée et qui s'aime, et pas un objet acheté dans un magasin. Mais ce cadeau, je vais devoir me l'offrir tout seul.
Cher Papa Noël, je tiens à vous dire que maintenant j'ai 18 ans et que je sais tout sur vous. J'ai même votre adresse. Moi je sais que vous êtes un escroc. Vous obligez les enfants à être sages pour des cadeaux qui n'arrivent jamais. J'attends toujours cette voiture que j'ai commandée en 96. Elle est où? Je l'ai jamais vue malgré toutes les lettres commandées. Je n'ai rien eu. Et la semaine dernière, quand je suis venu vous parler au supermarché, vous avez fait celui qui est au courant de rien. Alors je vais être clair. Vous avez 2 semaines pour me la ramener. Passez ce délai, comptez sur moi pour informer tous les enfants que je croiserai que vous êtes un escroc. En plus, des amis à moi tiennent votre pote le lutin en otage. Il se baladait tranquillement à jouer club, l'imbécile. La voiture, vous avez 2 semaines.
C'est pas la valeur financière qui fait l'importance d'un cadeau. C'est valable dans tous les cas, que l'on offre ou que l'on reçoive. Parfois, les cadeaux, c'est comme un au revoir. Quand j'étais plus petit, j'ai un ami qui a déménagé et je savais que j'allais jamais le revoir. Le jour de son départ, j'avais le cœur noué. Pour qu'il se souvienne de nous, de nos délires, je voulais lui donner quelque chose d'important pour moi. Sans réfléchir, je lui ai donné ma veste préférée. C'est sûr que ça lui a fait plaisir. Je savais qu'en plus, il aimait cette veste. Je suis sûr qu'il l'a portée direct. Il y avait de l'émotion. On n'a pas pleuré, mais c'était pas loin. C'est ça que je veux dire. Quand on donne, c'est pas la valeur matérielle le plus important. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente. L'amitié, la fraternité, l'amour. Il faut aussi faire attention à comment on donne, pour ne pas que ça oblige celui qui reçoit à devoir donner quelque chose. Moi, il y a une chose dont je ne me sens pas redevable, c'est mon adoption. À 3 ans, mes parents adoptifs sont venus me chercher au Mexique, pour m'offrir une nouvelle vie. Je trouve que c'est le plus gros et le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait. Ça a bien plus de valeur que tous les cadeaux matériels que j'ai pu avoir ensuite. Mes parents, ils ne m'ont jamais mis la pression sur cette question-là. Des fois, quand je fais des conneries, je ressens un léger sentiment de culpabilité. Mais c'est juste comme tous les ados qui déconnent devant leurs parents. En fait, pour l'adoption, mes parents m'ont fait un cadeau. Mais moi aussi, finalement, je leur en ai fait un. En étant là, tout simplement.
Allez, on va se dire qu'on se donne pas plus de temps que ça. On finit cette émission et on fera le point plus tard sur ce qu'il nous reste à donner, mais aussi à recevoir.
Cette émission a été réalisée dans les studios de l'atelier Info Radio de Montpellier par Marvin, Damien, Stéphane, Alex, Guillaume et moi, Eduardo.
On remercie Jean-Pierre Bélair du Secours Populaire Français, ainsi que Madame Carbonel et l'équipe de coordination des prélèvements d'organes de Montpellier.
On vous laisse, à bientôt.